Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est très précisément 12h. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. 3 civils tués et des boutiques pillées par des assaillants. Bilan provisoire d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais de l'ADEF la nuit dernière au village d'Nzenga en territoire de Beni au nord Kivu. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo promet de veiller sur l'effectivité de la rétrocession au profit des provinces et exige la mise en place de la chaîne des dépenses. C'est l'un des engagements qui a sanctionné hier à Kinshasa la 7e session de la conférence des gouverneurs. Notre invité, c'est la députée provinciale élue de Makanza dans la province de l'Équateur. Marie-Josée Molebo parlait de son rapport d'enquête parlementaire sur l'insécurité qui a prévalu en Mbandaka où 9 bandits ont été tués par la population en colère. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au micro, Pascal Massirika, Polydor Basungaï sur les manettes. Au nord Kivu, nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais de l'ADEF la nuit dernière en Nzenga, un village voisin de la cité de Mutwanga, chef-lieu du secteur de Rwenzori en territoire de Beni. Selon les sources sécuritaires et administratives locales, le bilan provisoire est de 3 civils tués et quelques boutiques pillées par les assaillants. Plusieurs habitants viennent d'abandonner le milieu pendant que les FARDC ont renforcé leur dispositif. C'est ce que nous raconte Martial Papimoukeba.
L'attaque des ADF en Nzenga est intervenue aux environs de 19h30 heure locale. Selon des sources sécuritaires et administratives locales, dans ce village, les assaillants ont tué 3 civils avant d'incendier une maison d'habitation et piller quelques boutiques. Ces ADF vont ensuite tenter, mais sans succès, d'attaquer Mutwanga, chef-lieu du secteur des Rwenzori. Ils seront opposés à une résistance des FARDC. Les assaillants vont ensuite se diriger vers le village de Mutsora où ils tentent d'attaquer la station du secteur nord de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICSN. Ils seront repoussés après échange de tirs avec les éco-gardes. Selon des sources militaires, jusque mardi dans la soirée, des violents combats opposaient les FARDC et les ADF à l'Ocelocé. L'armée et les assaillants se disputent le contrôle de ces villages, greniers du territoire de Beni, où se trouvent plusieurs plantations du cacao et des bananeries. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Kapi.
Et puis, 4 morts et une moto endommagée. Bilan provisoire d'un accident de circulation survenu ce mercredi matin à Nyaleke sur la route de Kassindi à l'est du territoire de Beni. Selon des sources sur place, un camion de marque Actros de la compagnie TMK s'est renversé sur une moto qui transportait des passagers qui venaient de Rwenzori pour Beni. Les éléments de la police de circulation routière se sont rendus sur les lieux pour mener l'enquête. Nord Kivu encore, l'Assemblée provinciale a achevé hier mardi sa session budgétaire de septembre. À cette occasion, le vice-président de l'organe délibérant, maître Jean-Paul Lumbulumbu, a invité les habitants à soutenir les FARDC contre les rebelles ougandais de l'ADEF qui n'ont pas cessé d'endeuiller la province à Beni. Mais l'élu de Lubero a également alerté sur d'autres situations qui tirent vers le bas le travail de cet organe délibérant. À Goma, le compte-rendu de Jules Ngaloamona.
Au nombre des points soulevés dans son discours de clôture, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu appelle la population de son entité à un soutien sincère vis-à-vis des FARDC et d'autres services de sécurité et de défense. Maître Jean-Paul Lumbulumbu.
J'invite toute la population à continuer à faire confiance à notre armée et à nos services de sécurité en dénonçant tous les auteurs et complices impliqués dans la sécurité dans notre province, en se désolidarisant de tous les ennemis de la paix.
Jean-Paul Lumbulumbu, qui s'inquiète aussi sur le risque de fragilisation du travail des élus en province depuis 2013.
L'irrégularité de la rétrocession aux provinces met l'Assemblée provinciale dans de sérieuses difficultés de fonctionnement, réduisant son efficacité institutionnelle ainsi que les personnels politiques et administratifs qui, voilà 9 mois impayés, font face à une situation de fragilité sociale autant que la population.
L'élu de Lubero n'a pas manqué de mettre en garde contre la propagation de la COVID-19 dont le Nord Kivu est la province la plus touchée après Kinshasa. Goma, Jules Ngalawa Mona, Radio Okapi.
Vive tension ce mercredi matin à Kamandi, un village situé au sud de Butembo dans le Nord Kivu. La population en colère a incendié le bureau et le cachot de la police nationale à la suite de l'assassinat d'un jeune garçon par un policier la nuit dernière. La victime a été atteinte par balle au bras et à l'abdomen, rapporte la société civile locale. À Butembo, le point de la situation avec vous, Florida Kahambu.
Eric Kakule, 16 ans, était inscrit en quatrième année dans une école secondaire de la place. La société civile de Kamandi indique que la victime était dans un lieu de deuil de notre jeune mort à Kamandi Lac et dont le corps a été ramené à son domicile hier mardi. D'après Sami Sakoumi, président de cette structure citoyenne, Eric et ses amis se sont rendus 5 parcelles plus loin du lieu du deuil où se vendent des boissons. Vers minuit, les policiers auteurs de l'assassinat, qui étaient des gardes au bureau du sous-commissariat de la police, a abandonné son poste et s'est rendu à la même parcelle à plus ou moins 400 mètres pour prendre un verre, rapporte Sami Sakoumi. Il ajoute que quelques instants après son arrivé, les policiers a dit sentir l'odeur des rebelles. C'est ainsi qu'il a tiré sur Eric Kakule, qui est tombé sur les champs. Ayant appris la nouvelle ce matin, une foule en colère a barricadé la route et brûlé les bureaux et les cachots locaux de la police. La même source précise que le corps de la victime a été acheminé au centre de santé de Kamandi en attendant son inhumation. L'administrateur du territoire des libéraux, Richard Niembo, qui confirme la nouvelle, indique que le policier dont il est question est déjà aux arrêts. Butembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Les morts, on en parle encore et malheureusement dans la province de l'Ituri où 4 enfants sont décédés et leurs corps découpés en morceaux hier mardi à Tsoro, en territoire de Djougou. À la base, un engin explosif qui a éclaté après avoir été manipulé par ces enfants qui jouaient dans une plantation. L'administrateur du territoire de Djougou qui confirme ce drame indique que cette bombe aurait été abandonnée à cet endroit par les assaillants de la Codeco actifs dans la région. Pour en parler, retrouvons à Bounia Martial Gizaibiamongu.
Mardi 29 décembre, 13h, heure de l'Est, 4 enfants dont l'âge varie entre 3 et 7 ans jouent dans une plantation agricole située non loin de leurs habitations à Pimbo Tsoro, vers le marché Ouzi, secteur de Walindu Djati. Selon des témoins, je par Radio Kapi, ces mineurs ont ramassé un objet à la forme d'un petit ballon qui était en plein air. Ils ont commencé à jouer avec cet engin explosif non explosé 5 minutes après. L'un de ces mineurs va jeter à l'air cette munition de guerre. C'est à Rectoma que ce qu'il croyait être un ballon va exploser. Tiwa, du même coup, tous les 4 enfants. Il ne restera que des petits morceaux de l'air. L'explosion de cet engin va créer une psychose dans les milliers, indique des sources de la société civile locale. L'administrateur du territoire de Djougou, Alingi Mokuba, confirme les faits. Il appelle les parents à bien protéger leurs enfants afin qu'ils ne puissent pas fréquenter des milliers où les groupes armés sont actifs. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Drame également dans la commune de Kikula, à Likasi, en province du Haut-Katanga. Une femme et ses 2 enfants ont été brûlés vifs dans leur maison par des hommes en uniforme et armés non identifiés. L'incident se produit dans la nuit de lundi à mardi. Pris de colère, la population du quartier s'est soulevée en barricadant la route pour exprimer son ras-le-bol. Le maire de la ville de Likasi annonce que les enquêtes sont en cours pour retrouver les auteurs de ces actes macabres. À Lubumbashi, Jean Gandou.
D'après plusieurs sources, les hommes en armes et en uniforme se sont présentés vers 1h du matin chez un homme commerçant de son état sur l'avenue Nzilo dans la commune de Kikula. Cet opérateur économique leur a remis $800 américains, somme qu'ils ont trouvée insignifiante. N'ayant pas trouvé satisfaction, ils l'ont molesté puis aspergé de l'essence à la maison avant d'y mettre les feux. L'homme a pu s'échapper et se trouve pour le moment à l'hôpital. Sa femme et ses 2 enfants n'ont pu se sauver et ont été brûlés vifs. Conduits à la morgue, leurs membres de famille ainsi que les jeunes du quartier ont ramené leur dépouille mortelle sur les lieux du drame, explique le maire de Likasi. Ce qui a fait que la commune de Kikula est restée en ébullition pendant plusieurs heures, car les jeunes ont barricadé la route, incendiant des pneus sur la voie publique. La police qui est arrivée sur les lieux a eu du mal à calmer les manifestants en colère malgré les tirs en l'air. C'est ainsi que 2 camions transportant les militaires du centre Moura sont partis en renfort. Arrivés non loin du lieu du drame, un s'est renversé, tuant sur le coup un militaire. 29 autres sont blessés et sont tous internés dans un hôpital de la place. Paul Kisimba, de la plateforme des activistes des droits de l'homme de Likasi Padolik.
Comment ceci pouvait arriver alors qu'il y a un couvre-feu. Ces malfaiteurs circulent à quel moment pour ne pas être vus par ceux qui sont en train de patrouiller.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
On en vient maintenant à la politique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, promet de veiller sur l'effectivité de la rétrocession au profit des provinces en exigeant la mise en place de la chaîne des dépenses. La Cour des comptes a à cet effet été instruite à faire la mission de contrôle des frais de rétrocession. C'est l'un des engagements qui a sanctionné hier mardi ici à Kinshasa la 7e session de la conférence des gouverneurs. De leur côté, les gouverneurs de province se sont engagés à travailler suivant la vision de l'unité, de l'union sacrée de la nation initiée par le président de la République. Pele Kipelamondo revient sur les grandes lignes de ces assises.
Suivant la vision du président Félix Tshisekedi est contenu dans leur motion de soutien, lu en leur nom par Pancras Bongo, gouverneur de Tshuapa. Les 26 gouverneurs ont rassuré les présidents de la République de leur soutien et de l'exécution sans faille de ces instructions qui seront relayées dans leurs entités. Ils se sont aussi engagés de travailler en toute harmonie avec le gouvernement centrale. Dans le compte rendu sanctionnant la clôture de ces assises, lu par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, il a été fait état sur le plan politique et sécuritaire notamment des conflits récurrents entre les assemblées et les gouvernements provinciaux, les conflits coutumiers, les banditismes urbains et l'activisme des groupes armés. S'agissant de la crise entre les institutions législatives et exécutives en province, le VPM Gilbert Kankondé a sollicité qu'il soit décrété un moratoire suspendant les motions de défiance contre le gouverneur pendant une période de 2 ans pour garantir la stabilité de ces institutions. Au plan économique, financier et social, les participants ont noté la dégradation du tissu économique des provinces, la gestion centralisée des investissements des provinces, les faibles pouvoirs d'achat, les faibles accès à l'énergie électrique et à l'eau potable, le non-respect des redevances pétrolières et d'infrastructures ainsi que les effets de la pandémie du coronavirus. Sur le plan des infrastructures et développement, on a noté la vétusté des unités de production dans certaines provinces et l'absence dans d'autres, surtout celles issues du démembrement. Le principe de l'organisation rotative de la conférence de gouverneurs a été réaffirmé. Cette fois, le choix est tombé sur la ville de Mbandaka, qui devra accueillir la prochaine rencontre du genre.
Merci Pele Kipelamondo pour ces précisions. Politique encore dans la Tshopo, le bilan de la session de septembre 2020 à l'Assemblée provinciale s'avère mitigé au vu de rapport d'activité présenté par le rapporteur du bureau. C'était hier mardi à la fin de la session ordinaire par le président intérimaire. Bernardin Mbilingo a par ailleurs exhorté les députés provinciaux de la Tshopo à se pencher sur les préoccupations des habitants de cette province. Il a également annoncé l'adhésion des membres de l'Assemblée provinciale de la Tshopo à l'Union sacrée pour la nation initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage à Kisangani de Jacques Mukongole.
La moisson n'aura pas été abondante au cours de la session de septembre 2020. Selon le rapport d'activité présenté par le rapporteur de cet organe, 4 réunions de la conférence des présidents, dont une élargie aux membres du gouvernement provincial, ont été organisées. 7 séances, dont 2 publiques et 5 à huis clos, ont été également décrétées durant cette session. Des 26 matières inscrites à l'ordre du jour, un projet d'édit parlementaire a été adopté, tandis que celui relatif au budget provincial ne l'a pas été à cause de la non prise en compte des intérêts de la population selon ce rapport. Cependant, l'interpellation du directeur général de la DGRPT n'a pu avoir lieu en raison de l'absence de l'intéressé, celui-ci ayant été destitué par l'autorité provinciale 48 heures à l'avance. Par ailleurs, l'Assemblée provinciale n'a pas été tendre envers le gouvernement provincial. Ce dernier est reproché d'avoir organisé, je cite, un gangstérisme économique caractérisé par la dilapidation des finances de la province. L'incident impliquant l'arrestation des 3 députés provinciaux a été aussi évoquée comme une illustration de la crise installée entre les 2 organes. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Notez qu'après la fin de cette session, le président intérimaire a ouvert également la session extraordinaire de décembre afin d'examiner plus de 15 matières en souffrance. Au Maniema, pendant ces temps, la remise est reprise entre les ministres provinciaux sortants et entrants lundi le 18 décembre dernier s'était déroulée à Kindu surtout en l'absence des ministres sortants du gouvernement Moussa Ferry. Le Conseil provincial de sécurité a convoqué la séance pour en débattre. Ces ministres demandent que ces actes soient punis pour que l'état de droit prôné par le chef de l'État congolais ait tout son sens dans cette province. Leur déclaration a été lue à Kindu par Assoumani Makunku Dadi dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Nous, membres du gouvernement provincial d'Imanyema, victimes des arrêtés illégaux pris par le vice-gouverneur de province, nous remercions son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui a juste compris que la province était en train d'aller en dérive. Il s'est fait malheureusement que les services spécialisés n'ont pas voulu obtempérer le message officiel du 27 décembre 2020 de son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, relatif à l'annulation toute affaire cessante et sans armement les arrêtés sus visés pour violation manifeste de la Constitution et des lois de la République. En effet, une occupation forcée de nos bureaux par les ministres illégalement nommés vient d'être organisée à l'absence des ministres en fonction, jusque-là non notifiés, et cela sous la barbe de tous les membres du Conseil provincial de sécurité, pourtant notifiés du message officiel de la vice-primature, ce qui frise une complicité dans les sabotages des instructions de la haute du pays. Ces actes méritent d'être sanctionnés sévèrement pour éviter la contagion dans d'autres provinces.
Actualité internationale.
L'Afrique du Sud, pays le plus touché du continent par le coronavirus et qui avait déjà pris des mesures drastiques pour lutter contre la propagation du virus, fait de nouveau face à un rebond de la pandémie. Le président de la République, Cyril Ramaphosa, a annoncé hier mardi dans la soirée des nouvelles restrictions, notamment sur le plan économique. En Côte d'Ivoire, le premier ministre Ahmed Bakayoko salue le consensus pour l'organisation des élections législatives au mois de mars prochain. C'est ce qu'indique l'accord qui aurait été trouvé entre le pouvoir en place et des partis politiques de l'opposition. Il a beaucoup été question de la commission électorale indépendante et de la participation de l'opposition à son fonctionnement. Le texte parle aussi de la poursuite du dialogue entre le président de la République Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Il a été également évoqué la nécessité d'ouvrir des discussions avec Laurent Gbagbo.
L'invité.
Dans l'Équateur, la députée provinciale Marie-Josée Molebo a présenté à ses pairs le week-end dernier son rapport d'enquête parlementaire sur l'insécurité qui a prévalu récemment dans la ville de Mbandaka. 9 présumés voleurs et bandits Kuluna ont été tués et brûlés par la population en colère. L'incendie des pneus et les matériels de riposte contre la dernière épidémie d'Ebola et la pandémie du coronavirus a été également au nombre des discussions. L'élu du territoire de Makanza en parle dans cet entretien avec Paul Richard Malengela.
Madame Marie-Josée Molebo, bonjour.
Bonjour.
Après votre enquête parlementaire, quel a été le résultat auquel vous avez abouti?
Nous avons constaté réellement qu'il y a eu vraiment insécurité. On a identifié 9 personnes qui ont été brûlées par la population. Nous avons constaté encore qu'il y a eu incendie de matériel au niveau de grands labos de la clinique universitaire de Mbandaka. Les matériels, la riposte de maladies à virus Ebola et puis la COVID-19.
Alors, quelles en sont les causes? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce comportement de la population?
Oui, c'est un comportement que nous condamnons et la plupart ce sont les jeunes. Les jeunes se sont lancés à ces actes de vandalisme. La première cause, c'est la pauvreté. Du fait que la population est vraiment en souffrance, ne sait pas se prendre en charge, alors se sont donné ce luxe d'aller voler, tuer, faire de n'importe quoi. Et aussi, il y a manque d'emploi. Les jeunes ou les personnes trouvent que piller, soit voler, soit tuer, semble bon. Oui, les gains faciles. Et même ceux qui ont l'emploi, vous allez observer les salaires. Il a quel salaire, ceux qui ont l'emploi. Donc voilà, c'est ce qui a poussé notre population à se lancer dans ces actes de vandalisme.
À pareille situation, je crois que la population doit plutôt se référer à la justice. Pourquoi est-ce qu'elle a préféré la justice populaire?
La population parfois accuse ou se plaint, mais ne trouve pas gain de cause. Il trouve souvent que quand il va se plaindre à la justice, même s'il trouve vrai que ce monsieur-là est un bandit ou c'est un voleur, il les arrête. Après une semaine, 3 jours, la victime victimes les voient encore d'ailleurs et dans le même quartier en train de menacer encore ceux qui l'ont accusé. C'est ce qui a insécurisé la population. Et puis la population s'est organisée d'elle-même pour se prendre en charge. Vous allez voir dans les gens qu'on a identifiés, il y avait quelqu'un qu'on a brûlé, il a volé seulement les canards. La vie humaine est sacrée, mais vous tuez quelqu'un, vous le brûlez pour avoir volé un canard. C'est-à-dire, ça fait mal à la population qui ne trouve pas justice au niveau de la justice. Donc, la justice ne fait pas son rôle. Et souvent, il y a le système de liberté provisoire. Je ne saurais pas expliquer ça, mais la population acquise la justice pour attribuer aux criminels chaque fois les libertés provisoires. C'est ce que la population a déclaré. C'est ce qui a occasionné à la population de se faire justice.
Dans votre rapport, vous avez dit également que la responsabilité, elle est partagée. En quoi, oui, par rapport à ce phénomène d'insécurité dans la ville de Mbandaka?
Je dis que la responsabilité est partagée parce que nous avons aussi constaté qu'il y a irresponsabilité de la part du gouvernement provincial, des services de sécurité, mais nous sommes allés encore plus loin que aussi la population elle-même, elle a la part de responsabilité. C'est-à-dire, vous allez voir qu'on a brûlé quelqu'un au niveau du Congo-Ouassa. On l'amène par une population comme ça du Congo-Ouassa jusqu'à la mairie sans être inquiété. Imaginez-vous. Est-ce que ça, on va dire qu'il y a la sécurité dans cette ville? Depuis qu'on a tué cette personne-là, il n'y a personne. La police n'est pas là. Tous les services de sécurité ne sont pas là.
Où est la responsabilité du gouvernement provincial?
Est-ce que la police est indépendante? Non. Bien que la sécurité est assurée par la police, bien sûr, mais il faut que cette police-là soit dotée de moyens conséquents. C'est là où je dis qu'il y a aussi de l'irresponsabilité du gouvernement provincial. Il faut que la police ait des moyens qui seront dotés par l'exécutif provincial. Voilà un peu la part de l'irresponsabilité de l'exécutif provincial. Autre chose que nous avons constaté sur le terrain, c'était les non-paiements des vraies listes de prestataires, parce qu'on a vécu le tripotage des listes qui a occasionné qu'on puisse incendier les matériels qui ont été prévus pour la riposte de ces deux maladies-là. La population a crié, c'est aussi ça ce qui a causé aussi l'insécurité dans la ville.
Et la population a aussi sa part de responsabilité, laquelle?
Bien sûr, parce que la population doit dénoncer. Et puis la population ne peut pas se faire justice. La population, quand il trouve quelqu'un comme ça, il arrête et va le déposer. Bien qu'il déplore ça, mais il ne peut pas se faire justice parce que la loi l'interdit. De deux, dénoncer en avance, pas seulement attendre qu'on arrête. Les malfaiteurs là vivent avec nous dans les quartiers, dans les parcelles, nous les connaissons, nous, la population. Mais nous attendons seulement qu'on l'arrête quelque part, qu'on le tue pour dire que non, nous nous prenons en charge. Il faut se prendre en charge en amont. C'est-à-dire, quand vous voyez un élément comme ça, il faut le dénoncer. Avant même qu'on arrive à ce niveau-là, de le tuer comme ça, publiquement, et de se faire justice.
Marie-José Molebo, merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, Madame Marie-Josée Molebo, députée provinciale de l'Équateur, élue du territoire de Makanza, interrogée par Paul Richard Malengela. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Merci infiniment à Micheline Chouala qui l'a coordonnée sous la supervision éditoriale de Pelé Kipela Mondou.